If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Suite de notre marathon de podcast, on retourne à l'Est aujourd'hui pour parler d'une franchise qui tient au petit cœur d'un de nos membres de l'équipe. Il a d'ailleurs mis un sweatshirt Fila pour parler de Philadelphie, donc ça coule de source. Comment ça va, Amine, aujourd'hui? Est-ce que tu commences pas à en avoir marre de moi? Parce qu'on se voit assez souvent pour enregistrer.
Non, j'en ai pas marre. Et il faut préciser quand même que on se voit vraiment souvent vu qu'on a fait cet épisode en pilote aussi, qui n'est jamais sorti sur Philadelphie. Je donne un petit peu les insides et que plusieurs épisodes on les a réenregistrés plusieurs fois. Donc effectivement, ça fait beaucoup de temps qu'on passe ensemble, mais c'est toujours un plaisir.
Ah, vous avez vu, je ne suis pas un tortionnaire. C'est vrai que on a dû enregistrer sur les 10 derniers jours ensemble. Peut-être 6 ou 7 épisodes, je pense, de tête, quelque chose comme ça, facilement. Et effectivement, si vous voulez les inside, les coulisses du Dunk Hebdo NBA Podcast, on a enregistré un pilote qu'on a envoyé à toute l'équipe pour dire, en gros, les gars, qu'est-ce qu'on doit changer dans la formule. Et en gros, je pense que cet épisode sera meilleur que le pilote, d'abord parce qu'on a de l'expérience, et surtout parce que, en réalité, la formule a été changée. Il y a certaines choses qui n'ont pas été gardées. Donc, vous voyez qu'on fait bien notre travail. Il y a une vraie volonté d'améliorer le contenu. En tout cas, on en est après plusieurs jours de cette formule, elle a bien été étrennée. Vous devez maintenant la connaître. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre? On met en avant 3 faiblesses qui seront, selon nous, rédhibitoires pour que votre franchise. Et là, quand je dis votre, je ne m'adresse pas vraiment à la foule, Amine, mais à toi aussi. Du coup, je t'inclus dedans, rédhibitoire pour gagner, remporter le titre. Avant de commencer, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais également sur YouTube et sur Twitter où on vous assène et tweet toutes les heures pour vous rappeler qu'il y a des lives sur YouTube, pour vous rappeler que tel ou tel épisode sort, et aussi il y a un petit thread qui a été fait pour que vous puissiez retrouver tous les épisodes. Amine, on commence comme d'habitude par le résumé de la saison 2023-2024 des Sixers, et je te vois déjà un peu triste dans le regard. On était sur une saison qui se voulait charnière et qui du coup a été peut-être charnière sur le début avant, il faut le dire, la blessure de Joel Embiid, c'est ça?
Oui, ça a été une saison charnière. Il faut revenir au tout début avec le mélodrame James Harden, comme on en a un peu l'habitude quand c'est pas forcément chez nous, mais en tout cas, il y a souvent un mélodrame James Harden qui arrive quelque part ces dernières années. Donc, le départ de James Harden, l'arrivée de Nick Nurse aussi, puisque le départ de Doc Rivers, pour mon plus grand plaisir. Et un début de saison où les Sixers ont été très bons avant cette fameuse blessure d'Embiid. On a pu observer justement, grâce à Nick Nurse, j'y reviendrai beaucoup plus tard, mais grâce à Nick Nurse, c'est un changement de philosophie énorme de l'équipe, qui était une équipe prévisible, j'ai envie de dire, avec de l'iso, du pick and roll en gros, et une défense assez classique en drop. Aujourd'hui, Nick Nurse a apporté des choses très différentes qui ont permis d'avoir un très bon début de saison, malgré la perte de James Harden, qui n'est pas une perte mince, puisque c'était ton meilleur créateur et ton deuxième meilleur joueur, et justement... Et effectivement, là, aujourd'hui, avec la blessure d'Embiid, s'il avait été là, peut-être que l'équipe aurait gardé un meilleur... Enfin, c'est sûr et certain que l'équipe aurait gardé un meilleur plancher grâce à la présence d'un joueur tel que Harden. Donc, une orientation plus collective qui a permis d'avoir un très bon début de saison. Donc, attaque autour de Embiid en hub et les progrès de Tyrese Maxey, tout de même All-Star cette saison. Et surtout, comme tu l'as précisé, à chaque fois que Adrien proposait Kobe White en MIP favori au MIP actuellement, Tyrese Maxey, progrès dans le volume qu'il a pris en restant assez efficace. Progrès au playmaking aussi, même si on n'est pas sur un créateur élite, on est aujourd'hui un créateur intéressant. Et puis même en défense, où on a un joueur qui est beaucoup plus proche du neutre que du négatif comme il l'était. Et puis, on arrive justement à la blessure d'Embiid. Donc, depuis la blessure d'Embiid, l'équipe a beaucoup de mal. Il y a eu aussi la trade deadline entre-temps qui a fait arriver Buddy Hield et Kyle Lowry, qui sont des joueurs qui font plus sens avec Joel Embiid, comme c'est le cas d'une grande partie du roster, mais en tout cas, qui font clairement plus sens avec lui. Donc, les difficultés sont avérées très grandes ces derniers temps, notamment le passage de Paul Reed, qui était titulaire dans un premier temps au poste 5, mais il a eu de telles difficultés en titulaire que c'est finalement Mo Bamba qui a le plus souvent occupé le poste de starter, et ce qui permettait notamment à Tyrese Maxey un meilleur accès au cercle, parce que les performances de Mo Bamba ne sont pas non plus extraordinaires, loin de là. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation play-in où le classement commence à sérieusement se dessiner, l'équipe est 8e. On voit que Miami va probablement être 7e, donc ça, c'est très inquiétant.
C'est vrai, si on s'arrête par exemple sur le cas de Tyrese Maxey, on peut parler plus de l'évolution. C'est l'évolution sur 24 mois que je trouvais extrêmement intéressante, dans le sens où, tu l'as dit, tu perds James Harden et tu passes sur un joueur qui, à cause de la blessure de Joel Embiid, passe d'un rôle de troisième option à un rôle quasiment de première option bis, ou en tout cas un rôle qui est extrêmement difficile à porter. Et tu vois, sur des notions d'usage, d'utilisation de ballon, où il a vraiment quasi un rendement, en tout cas il a une utilisation de star, voire de superstar, ce qui n'est peut-être pas actuellement. Et c'est vrai qu'il y avait un début de saison qui était extrêmement prometteur et qui a peut-être été un peu déraillé. Juste sur cette partie de saison-là, Amine, précisément sur, en gros, la partie sans Joel Embiid, est-ce que tu es déçu ou pas de ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes, et on l'a fait dans certaines émissions, notamment, je crois, un des 4K, on s'est dit peut-être que c'était prévisible que l'équipe un peu tombe parce que Embiid avait une grosse charge offensive. Est-ce que tu as été déçu ou pas de cette période sans Embiid?
Sincèrement, j'ai été très peu surpris. Hein. Et c'est pour ça que je suis pas toujours d'accord justement avec... Évidemment qu'on n'est pas toujours d'accord dans l'équipe, mais je me rappelle d'une intervention de Madiane qui avait été très dure envers nos Sixers. Mais à un moment donné, quand tu as une équipe qui est autant héliocentrée autour d'un joueur, en l'occurrence qui est Joel Embiid, qui est un joueur très particulier de créer cet héliocentrisme autour de lui, ce n'est pas un joueur commun auquel tu tournes un héliocentrisme. Beaucoup de joueurs ne font beaucoup moins sens sans Joel Embiid. Et du coup, c'était pas surprenant. Sincèrement, sachant que je vais développer justement dans mes points suivants pourquoi justement ça s'est étiolé comme ça, mais moi je trouve que c'est pas surprenant et que finalement quand tu as un joueur du niveau de Joel Embiid, du niveau qu'il a montré cette année, qui était extraordinaire, meilleur que la saison dernière notamment par son implication défensive également, est-ce que c'est pas normal que ton équipe se retrouve vraiment pas bonne lorsque ce joueur n'est pas là? Parce que non seulement il t'apporte au scoring, mais en plus, il permet aux autres d'être bien meilleurs.
Eh bien, démarrons, Amine, avec les trois faiblesses que tu veux mettre en avant. Et tu as déjà un petit peu commencé. La première des faiblesses qu'on aurait pu anticiper, c'est la dépendance à Joel Embiid.
Alors oui, évidemment. Surtout qu'à l'heure où on parle, il se rapproche d'un retour qui pourrait arriver à quelques matchs avant les playoffs, ce qui lui permettrait de prendre un peu de rythme. Mais c'est quand même un problème. C'est quand même un problème dans le sens où on ne sait pas combien de matchs il va pouvoir jouer, s'il va pouvoir enchaîner, s'il va pouvoir être là à son meilleur niveau. Donc la Embiid dépendance, c'est quoi cette saison? Donc 39% d'usage selon Clean the Glass. Ça, c'est un chiffre qui ne surprend pas tant que ça, finalement, pour Joel Embiid. Hein. Ce qui est plus surprenant, c'est les 31% d'assist percentage. Toujours selon Clean the Glass, c'est le plus haut de l'équipe. Et pour point de comparaison, sachant que ce n'est pas non plus si surprenant que ça qu'il soit impliqué dans les dernières passes avant les tirs de ses coéquipiers, puisque c'est un joueur important du roster et que les prises à deux, par exemple, ça doit passer par lui, ce genre de choses. On peut quand même souligner que dans les deux dernières saisons où c'était son plus haut ratio assist percentage en carrière, il était aux alentours des 23%. Il est passé à 31%. Et puis, on est aussi sur un meilleur ratio assist usage en carrière. Il a 0,81, tout en ayant son plus faible turnover percentage. Donc, on est sur un Embiid qui, cette saison, est devenu un joueur auquel les choses tournent encore plus que les saisons précédentes du côté de Philadelphie. Et il est plus seulement le meilleur scoreur des Sixers, il en est aussi le meilleur créateur et le créateur numéro un. Beaucoup se plaignent justement que Tyrese Maxey n'est pas assez fort à la création, mais ce n'est pas le bien qu'il ait beaucoup le ballon dans les mains et qu'il crée beaucoup pour lui-même et pour les autres, le créateur numéro un cette saison des Sixers, c'est Joel Embiid. Et même s'il n'est pas Jokic, il faut souligner ses nets progrès à la création. Et Nurse a vraiment organisé toute son attaque autour d'Embiid. Il fait un peu comme Jokic, office de hub, même si c'est pas de la même manière. Il fait office de hub dans cette équipe. Et du coup, c'est le revers de la médaille de ce que je disais. C'est que ce n'est pas surprenant que ça aille mal quand Embiid n'est pas là, mais du coup, c'est un problème quand même que ce soit autant dépendant d'un seul joueur. Je pense que c'est peut-être l'équipe qui est le plus dépendante de son franchise player, peut-être l'équipe qui l'est le plus dans la ligue.
Moi, je dirais oui. Ouais.
Et c'est là, du coup, que c'est très compliqué. Il y a un nombre de joueurs qui sont optimisés par Embiid. Je pense notamment, on peut citer facilement Kelly Oubre au très bon début de saison et dans l'organisation de Nurse qui avait pris une importance capitale parce que c'est un joueur proactif, agressif et qui était très utile aux côtés de Joel Embiid. Je pense à Buddy Hield dont on attend, et j'en reparlerai plus tard, une utilisation beaucoup plus intéressante autour de Joel Embiid. On a parlé de Maxey qui a pris un usage encore plus important depuis la blessure d'Embiid. Mais Maxey, il est optimisé par Embiid. C'est pour ça que c'est un excellent numéro 2 à Philadelphie. C'est parce que c'est un shooter en mouvement, un joueur qui drive beaucoup. Et du coup, Embiid et Maxey, ça fonctionne très bien ensemble. Tout ça, même l'optimisation du spacing passe par un bon Joel Embiid, qui n'est plus un joueur de post-up principalement comme il l'était. Bon, pas l'année dernière, ça fait déjà, la mutation existe depuis un moment, mais aujourd'hui c'est plus un joueur d'ISO qui prend énormément de mid-range, de long 2 et qui est très bon là-dedans. Et du coup, l'attaque, si elle n'est plus organisée autour de lui, elle est organisée autour de personne, parce que aussi tu n'as pas aussi, pour en revenir à la dernière situation dans ce cas, tu n'as pas de backup capable, c'est-à-dire que Paul Reed fait le boulot en tant que backup, mais un bon backup n'est pas un titulaire, et en l'occurrence Paul Reed, c'est un vrai problème quand il a été titulaire. C'est aussi un gros problème d'avoir aujourd'hui Mo Bamba en titulaire, mais ça permet à Paul Reed d'être meilleur sur les minutes qu'il joue, ce qui est quand même ce que je pense que recherchait principalement aussi Nick Nurse. Mais pour terminer avec cette faiblesse, je vais sortir la dernière stat. Bon, c'est une stat qui n'est pas surprenante non plus, mais Joel Embiid, cette saison, il a joué 1157 minutes. Les Sixers, lorsqu'il était donc sur le terrain, ont un net rating de 9,63, ce qui est un très gros net rating. Lorsqu'il n'est pas là, on passe à moins 1,82. Donc, avec Joel Embiid, on a 121 d'offensive rating. Sans lui, on est à peu près à 115. Et avec lui, on est à peu près à 112 de defensive rating. Sans lui, on n'est pas loin des 117 de defensive rating. Je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes.
Bah, schématiquement, passer de plus 9 qui a plus 9, t'es à une équipe à 55-60 victoires, un peu plus, à moins, où t'es une équipe qui, en théorie, moins, t'as quoi? T'as 30 victoires, 35 de tête, comme ça. C'est très schématique, hein, mais c'est montrer le, comment ne pas être d'accord avec toi, Amine? Moi, je vais continuer à montrer mon sponsoring par Basketball Index en vous donnant, de toute façon, cette stat que j'ai déjà utilisée plusieurs fois sur l'offensive load, où il est numéro 2 en NBA derrière Luka Doncic au niveau de la charge offensive, 58% des possessions. C'est extraordinaire. Et il y a toujours cette charge au niveau des shoots qui est folle. Il a 34 possession scoring possession sur 75, quoi. C'est pratiquement 50% du temps, il est sur du scoring ou sur du playmaking, et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a eu cette progression au niveau du playmaking, et il y a, pour moi, je pense qu'on peut dire clairement que c'est la franchise où la superstar, où le collectif est le plus dépendant de la superstar. Je dirais, les Wolves seraient pas loin, selon moi, à l'heure actuelle, offensivement. Bien évidemment, on pourrait citer les Nuggets aussi, mais il y a d'autres aspects, etc. Vraiment, là, on est face à une équipe qui est en grande difficulté. Amine, est-ce qu'on sous-estime trop l'impact défensif? T'en as parlé, mais j'ai l'impression que moi, quand j'ai fait mes recherches, notamment sur Utah à 3 points, quand j'ai parlé avec des Kings, avec Tom, sur les 3 points, les Sixers sont aux fraises dans beaucoup de stats défensives. Et là aussi, je pense que c'est un point qui a peut-être pas été assez abordé avec la dépendance qui est aussi extrêmement défensive. Tu l'as déjà dit avec Paul Reed et les aventures Mo Bamba, etc.
Ouais, ce qui est paradoxal, c'est que justement, lors de la première partie de saison où Embiid était là, on avait mis en place, enfin, Nick Nurse avait mis en place une défense très intéressante et qui était une des meilleures de la NBA à ce moment-là, et qui ne tournait pas que autour d'Embiid, en revanche. Embiid avait beaucoup d'importance dans le sens où c'était ton dernier rempart, même si parfois, justement, on l'a vu évoluer dans des systèmes un peu différents, parfois en roamer, et ce qui était intéressant. Nurse, en début de saison, jouait sur une défense très proactive et sur la provocation de turnover. J'y reviendrai plus tard de toute manière. Ce qui permettait une défense très, très agressive, qui autorisait beaucoup, finalement, d'accès au cercle, ce qui n'était pas du tout l'habitude de Philadelphie, mais qui permettait justement beaucoup de transitions et ce qui était beaucoup plus... qui permettait une attaque fonctionnelle dans une équipe dont l'inquiétude était plus du côté de l'attaque. Donc oui, là maintenant, ça crée des problèmes, forcément. Ça crée des problèmes pas seulement d'un point de vue défensif, on va dire avancé, mais ne serait-ce que le rebond actuellement avec je pense surtout à Mo Bamba qui est actuellement le titulaire, qui est un joueur qui ne se bat pas beaucoup au rebond, qui en prend parce qu'il est grand et qui met en difficulté le reste de l'équipe. Je pense qu'effectivement, lorsque tu n'as pas ton meilleur défenseur très clairement, tu es forcément moins bon en défense. Oui.
Un salut à mon neveu qui est un fan avatéré de Mo Bamba et à qui j'ai essayé de le convaincre que Mo Bamba était pas un bon joueur de basket depuis pas mal de temps. Les fans d'Orlando pourront le confirmer. Les flashs de Mo Bamba sont toujours fabuleux, mais le joueur qu'est Mo Bamba, c'est une autre histoire. Justement, on a parlé de Mo Bamba, d'autres joueurs du roster. Enchaînons, Amine, avec les limites du roster. Je pense que ça se complète parfaitement. C'est la faiblesse suivante.
Ouais, c'est la faiblesse suivante, les limites du roster. Alors, j'associe ça avec les blessures. Et quand je parle des blessures, je parle évidemment pas d'Embiid, parce qu'on vient d'en parler, mais je parle du reste du roster. Parce que mine de rien, si je prends aussi... Il y a un joueur qui a été beaucoup absent cette saison, qui l'est actuellement, qui s'appelle D'Anthony Melton, dont on est moins sûr du retour pour les playoffs prochainement, mais qui est un joueur... j'aurais pu sortir à peu près les mêmes stats en termes de net rating avec ou sans D'Anthony Melton pour les Sixers, même si c'est un peu floué puisqu'il a partagé pas mal de minutes finalement avec Joel Embiid, Melton, mais ça reste un joueur très important. Je pense également à Robert Covington, qui est absent depuis très longtemps. On s'est demandé même si c'était pas Nurse qui ne l'aimait pas tellement et ça nous paraissait un peu surprenant, mais c'est un joueur qui n'a plus joué depuis novembre ou décembre. J'avais la stat, je l'ai plus devant les yeux. Et c'est des joueurs qui peuvent être importants dans une campagne de playoffs. C'est des joueurs que tu n'as pas peur de mettre, en tout cas en playoffs. Bien que Covington peut être un problème un peu en attaque avec l'âge aidant, c'est une solution. Notamment dans l'idée de jouer peut-être des small ball five aussi, que ce soit Covington, que ce soit Batum, ça aurait pu être intéressant quand tu as des problèmes justement au niveau de ton backup pivot. Donc là, on a des absents, on a des joueurs qui sont là et qui ont des grosses limites. J'en viendrai un petit peu plus tard sur des cas particuliers, notamment au poste de forward, mais on est aussi sur des joueurs, même quand ils sont positifs, quand tu les imagines positifs, par exemple, tu peux imaginer un axe un petit peu comme aux Clippers avec Batum et Covington qui occupent les postes sur les ailes si Covington arrive à revenir un jour. Mais tu as des problèmes un peu plus offensifs dans ces cas-là. C'est-à-dire que tu as un Batum intéressant qui va faire le boulot que PJ Tucker n'a jamais fait la saison dernière, c'est-à-dire être un beau connecteur, prendre des trois points intelligents et défendre intelligemment. Mais tu te retrouves avec un Covington qui vraiment en attaque est de plus en plus ciblé, de plus en plus ignoré par les équipes adverses. Donc ça te permet un small ball five par exemple qui n'est pas si intéressant que ça parce que il est assez ignoré en attaque. Mais c'est pas tout parce que on a des problèmes aussi avec des guards qui sont petits, avec des guards qui sont pas axés sur la défense, des ailiers qui sont très streaky au niveau de leur efficacité. Il y a beaucoup de choses dans ce roster qui créent des problèmes. Sachant que la meilleure line-up normalement des Sixers, qui a joué que 467 possessions ensemble, ce qui est vraiment très peu, ils ont un excellent différentiel de plus 33. Je pense à la line-up Maxi, Melton, Harris, Batum et Embiid. Ça a été pendant un court laps de temps, parce qu'aujourd'hui l'échantillon est beaucoup trop petit, la meilleure line-up utilisée en NBA. Mais donc difficile de se projeter sachant qu'on ne sait pas comment les joueurs qui vont accompagner vont revenir, dans quel état de forme ils vont revenir, est-ce qu'ils vont revenir. C'est beaucoup trop complexe aujourd'hui. Le roster n'est pas optimisé au maximum à leur hache. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un roster, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça en avant avec les blessures, on peut imaginer un groupe de 8 joueurs, on imagine 8 joueurs capables de vraiment aider en playoff. Je pense qu'on les a plus cette année que précédemment du côté des Sixers, mais est-ce qu'on les a vraiment là maintenant? C'est ça le problème aussi.
Robert Covington, j'ai cherché, il n'a pas joué depuis le 31 décembre. Il n'a pas joué en 2024. C'est excellent. Et je te rejoins sur le manque. Alors, c'est un peu un lieu commun, mais ça manque de joueurs de playoff, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs. Alors déjà, on pourrait faire une thèse sur la théorie du costume avec les Sixers cette année, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont en XXL, alors que la plupart des joueurs actuellement, à cause bien évidemment de la blessure de Embiid, et c'est là où c'est assez intéressant que tu aies mis en miroir les blessures et la composition de l'effectif aussi, parce qu'on aurait pu imaginer un Melton qui a un rôle, un Covington qui a un rôle, et là, tu te retrouves à donner plus de temps de jeu, plus d'importance à des joueurs qui devraient pas, que ça soit Mobamba, Paul Reed,
Campaign,
etc., qui devrait pas jouer autant dans une équipe qui avait comme objectif d'avoir l'avantage du terrain au premier tour en playoff. Je suis assez d'accord. Je suis surtout d'accord sur... moi, quand je vois jouer Philly, j'ai une... Sans Embiid, quand je les ai vus jouer, je criais devant mon écran d'ordi à chaque fois, ou ma télé, quand c'est devant la télé. Playmaking. Je trouve qu'il y a un déficit, mais criant, de playmaking dans cette équipe, que Nurse, qui est pas un coach historiquement porté sur l'attaque, même s'il a parfois de bons schémas, et qui est encore plus appuyé par les défaites actuelles, par les absences actuelles, parce que, alors Covington serait pas un playmaker, Melton pas trop non plus, mais le fait de donner plus d'importance à ces joueurs-là de fin de roster montre vraiment qu'il y a une absence de playmaking qui m'intrigue, c'est peut-être pas le bon verbe, qui m'inquiète surtout beaucoup.
En fait, c'est justement, ça en revient à mon premier point, c'est justement, sachant la difficulté qu'il allait avoir un créateur élite, Nick Nurse, c'est pour ça qu'il a organisé toute son attaque autour d'Embiid. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce manque criant. On a quand même des progrès avec Maxi cette saison, qui est un passeur très fonctionnel. Et on a Kyle Lowry qui a fait beaucoup de bien aussi, mine de rien. Celui qui était encore un zombie du côté du Heat est redevenu un peu vivant depuis qu'il est à Philly, avec quelques défauts. Je pense que aussi, on n'a pas tout à fait le même Kyle Lowry du côté de Philly que du côté de Miami, de manière pas que positive, parce que aujourd'hui drive beaucoup plus. Alors Kyle Lowry qui drive à son âge, ça m'inquiète un petit peu plus. Il prend moins ses tirs un peu à trois points. Joue un peu combo, c'est plus quand même Maxi qui a le ballon entre les mains. Mais Kyle Lowry fait beaucoup de bien quand même dans la gestion. Et tu parlais d'une chose tout à l'heure, c'est peut-être le joueur le plus expérimenté aujourd'hui de notre roster. Enfin, c'est clairement le joueur le plus expérimenté de notre roster, qui a fait énormément de playoffs, qui a gagné un titre. Donc mine de rien, ça a fait beaucoup de bien. Je pense à Batum aussi dans les joueurs de playoffs confirmés. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui du côté de Philly.
Eh bien, parlons playoffs avec les éventuels match-up à l'aile. Effectivement, Amine, il faut se mouiller la nuque quand on voit l'aile des Sixers face aux potentiels adversaires à l'Est.
Ouais, moi j'ai envie de poser la question, quelle équipe à l'Est ne gagne pas les match-up offensifs et défensifs sur les postes 3-4 contre Philadelphie? Alors moi, je vais répondre, après tu me répondras. Je vais répondre peut-être Cleveland, c'est-à-dire c'est pas sûr, hein, mais peut-être Cleveland quand même, parmi les gros. Mais même des équipes comme Chicago ou Atlanta ont des arguments à défendre sur les match-up à l'aile contre Philadelphie. Donc c'est un vrai problème. Qu'est-ce que t'en penses, déjà, avant que j'enchaîne là-dessus?
Non, instinctivement, j'allais dire peut-être Cleveland et encore. C'est tout. Enfin, ça dépend du... Parce que si tu parles en termes de star power, c'est peut-être même Mobley le meilleur joueur des deux groupes. Et il y a... Oui. Et ils ont de la profondeur.
Max Strus, je suis pas sûr qu'il soit moins bon que...
Ouais, Max Strus, ils ont de la profondeur.
Que Tobias Harris actuel.
Dean Wade. Non, en fait, oui, vous avez peut-être la pire aile de l'Est, ouais.
Ouais. Donc, c'est un gros problème. On sait que Daryl Morey a un rêve pour la saison prochaine, sachant qu'on a, je tiens à le préciser quand même, on a deux joueurs sous contrat pour la saison prochaine. Ils s'appellent Joel Embiid et Paul Reed. Donc, on a une rotation intérieure. C'est super. Il y a un doux rêve du côté de Philadelphie qui s'appelle Paul George. Moi, j'ai de gros doutes que ça arrive, mais pourquoi pas. En tout cas, moi, je serais preneur, malgré les blessures, malgré tout. On a tellement de problèmes sur ce poste d'ailier que je serais preneur. Donc, il y a ce doux rêve de Paul George, mais on est sur une situation à l'aile aujourd'hui où on a un début de saison qui est pas mauvais sur ce poste d'ailier, qui est bien meilleur que les saisons précédentes, parce qu'on a Tobias Harris qui était pas mauvais en début de saison, qui commençait plutôt bien et se trouvait un petit peu dans ce nouveau rôle finalement de troisième option, puisqu'il était passé un peu quatrième option les dernières saisons où il avait un peu plus de responsabilités, donc c'était pas mal. L'arrivée de Batum qui apportait ce que je disais tout à l'heure, donc tout ce que n'avait pas apporté PJ Tucker, et surtout quelque chose qu'on attendait du côté de Batum, sachant qu'on manquait de créateurs, c'est-à-dire la connexion, et un joueur très intelligent, mine de rien, qui a fait vraiment beaucoup de bien aux Sixers cette saison. C'est rare que je dise beaucoup de bien des Français, donc je tiens à préciser qu'on est très content de Nicolas Batum du côté de Philadelphie. Et en plus, tu avais cette possibilité, donc en début de saison, avec Covington qui jouait à peu près 20 minutes par match et qui était très intéressant sur les matchups, notamment défensives. C'est un joueur encore très bon lorsqu'il joue au niveau défensif, que ce soit sur l'homme, que ce soit en aide, que ce soit en playmaking défensif, il a de très bonnes mains. Et donc on avait ça, et on avait Kelly Oubre qui faisait un super début de saison en étant agressif, et parce que ses shoots rentraient, on savait que ça allait pas rentrer toute la saison. Les gens qui connaissent Kelly Oubre savent que c'est un joueur qui est par phase et qui la plupart du temps est plus énervant que satisfaisant, mais il était sur un très bon début de saison, et ce qu'il apportait en termes d'énergie était très importante aussi pour la façon dont étaient organisés ces Sixers. Donc vous me direz, là ça fait 4 joueurs pour une rotation LL qui sont corrects, mais non, la vérité c'est que Covington il est blessé, on sait pas si on le reverra à nouveau sous le maillot des Sixers. Tobias Harris est en chute libre total depuis la blessure d'Embiid, alors qu'il aurait dû prendre plus de responsabilités. On est sur un Tobias Harris qui, sur la période où Embiid n'est pas là, fait un bon match sur 4, et les 3 autres sont cataclysmiques à chaque fois, avec des pourcentages horribles, une défense pas impliquée. C'est l'un des joueurs les plus énervants cette saison. Il est plus énervant qu'un Kelly Oubre, par exemple,
qui est une performance
plus d'efforts. Ce qui est une performance. Sachant que je précise quand même, pour ceux qui auraient la mémoire courte, que j'ai pas mal défendu Tobias Harris quand même. J'ai pas mal défendu le joueur.
C'est vrai.
Mais là, on est dans une situation où ça devient intenable, sachant qu'il est en plus en fin de contrat. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il se montre plus, sachant qu'il a plus de responsabilités. Même Nick Nurse a commencé à limiter ses minutes lors de certains matchs, c'est la preuve que c'est un problème. Aujourd'hui, le seul motif de satisfaction à l'aile, il s'appelle Nicolas Batum, et ce n'est pas suffisant pour attaquer des playoffs à l'Est où la plupart des équipes ont leur point fort à l'aile. Donc, c'est un gros problème.
Je me suis fait la liste pendant que tu parlais, Amine. Enfin, tu as 3 joueurs qui sont DH20 à l'aile à l'Est. T'as Tatum, Giannis, ouais. Butler, et même les joueurs qui sont pas DH20, enfin, Odie a extrêmement bien fité du côté de New York. T'as Pascal Siakam qui est un mec qui est top. Alors il a eu du mal. La greffe est un peu compliquée à Indiana, mais ça reste un joueur qui est largement top 40.
Mais qui défend Pascal Siakam Philly, quoi?
Qui défend Pascal Siakam Philly? Même, tu vois, alors, ça va pas se faire vraisemblablement parce qu'au niveau des seedings, etc. Mais même Paolo au Magic, tu vois, qui défend. C'est sur l'aile.
Qui défend Franz Wagner.
Enfin, même, tu vois, même si tu descends Hawks, qui défend, enfin, efficacement DeAndre Hunter, Jalen Johnson, ou DeRozan, etc.
Et qui défend DeRozan?
Enfin, c'est complètement d'accord. Et ce qui est un peu, moi, ce qui marque aussi quand je vois les Sixers, c'est le manque de côté athlétique de cette base à l'aile. Parce que quand tu regardes les joueurs que j'ai cités, là, t'as des ovnis, en fait, physiquement. Et c'est vrai que
c'est pour ça que Kelly Oubre joue autant du côté de Philly. Parce que c'est le seul qui offre cette dimension vraiment athlétique.
Et c'est vrai que là où Batum, moi, de toute façon, Batum, c'est toujours un joueur que j'ai extrêmement aimé. Donc, vous n'entendrez pas de critique de Nicolas Batum ici. Peut-être s'il y en a eu dans le passé, mais en vrai, c'est un joueur qui est un role player parfait pour beaucoup d'équipes qui ont des ambitions. Voilà. Il va prendre ses 3 points, il va faire ses rotations défensives, etc. Mais ça peut pas être, il peut pas être dans ton top 2 options, une fois que les playoffs démarrent. Ça peut pas être lui une de tes 2 meilleures options à l'aile. Et que dire, Amine? Je pense que t'as tout résumé. C'est extrêmement faible. Et, Tobias, pour Camine, pour les non-habitués du podcast d'Uncap, pour Camine tape sur Tobias Harris, c'est vraiment qu'on est à un point de non-retour vis-à-vis de l'expérience Tobias Harris.
C'est compliqué.
Eh bien, on a été assez négatif, Amine. Parlons de l'espoir, Nick Nurse.
Alors, oui, Nick Nurse, c'est beaucoup d'espoir. Alors, avec quelle équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux joueurs sous contrat pour l'année prochaine, donc on verra, même si on imagine par exemple que Tyrese Maxey sera prolongé, évidemment, mais on n'a pas encore les contours, on espère en avoir assez vite. Déjà, quelque chose que j'ai envie de dire pour commencer avec Nick Nurse, la match-up des coachs, on a bien parlé de la match-up des ailiers, c'est un coach qui divise, je sais que on est d'accord sur le fait que c'est un coach qui, notamment au niveau des rapports humains, a montré certaines limites. Et je pense que même ses assistants ont montré de grosses limites ensuite. Donc, on imagine qu'il y a quelque chose autour de ça. Après, tactiquement, et ça a l'air de plutôt bien se passer humainement du côté de Philly. Donc, ça, c'est positif. Tactiquement, moi, personnellement, en termes de match-up de coach, à l'Est, il n'y a que Eric Spoelstra qui me fait réellement peur. Je pense qu'en termes, pas seulement de... Tu vois, tu pourrais citer un Rick Carlisle qui est un génie offensif du coaching offensif. Tu peux citer un Mazzulla qui a montré de très belles choses. Mais je pense que personne, à part Spoelstra, est capable d'aussi bien s'ajuster que ne le fait Nick Nurse, justement. Et ça, c'est quand même très important en playoff. Donc, c'est un motif vraiment important, motif d'espoir très important. Je vais parler un petit peu des volets de Nick Nurse. La défense, j'en ai parlé tout à l'heure, il a mis en place une défense très proactive avec beaucoup d'agressivité. Les Sixers provoquaient énormément de turnovers. L'objectif, c'était de limiter les 3 points adverses avec même des zones par séquence. Et du coup, il y a des ajustements et des adaptations à l'adversaire qui ont été fréquents, même en régulière. L'idée aussi, c'était de faire pression sur le porteur. C'était pour favoriser l'attaque, justement, en transition, dont je reparlerai plus tard. Et Embiid, donc, plus responsabilité usée défensivement lorsqu'il était là. Et du coup, la défense a été très bonne, alors qu'elle autorisait énormément d'accès au cercle. C'était une des équipes qui en autorisait le plus, qui changeait beaucoup plus des saisons précédentes. Donc, l'objectif, c'était surtout de provoquer l'erreur adverse. Du coup, tu en payais le prix avec des accès plus faciles parfois au cercle. Mais on a vu aussi, depuis la blessure d'Embiid, on a vu, je vais prendre un exemple très précis, durant le mois de mars, que Nurse pouvait s'adapter et jouer des défenses très différentes. Je pense à un match face aux Knicks, qui a été une sacrée purge, puisque score final a été de 79-73 pour les Sixers. Et on a vu justement dans ce match qu'il avait totalement fermé l'accès au cercle. Seulement 24% de tirs au cercle autorisés ce soir-là. Donc Nick Nurse, il sait défendre de manière différente, il sait s'ajuster, s'adapter. Donc ça, c'est super. Donc si tu peux compter sur un roster complet et compétitif, tu peux avoir confiance justement, tu vois. Le problème des match-up allèles est un peu compensé par le fait que Nick Nurse s'est organisé sa défense de manière collective. Cette saison, dans les 5 majeurs, il n'y avait pas 5 défenseurs forcément positifs sur le terrain, et pourtant la défense était positive. Et on va parler de ce que Nick Nurse a proposé en attaque, parce qu'il n'y a aucune surprise finalement sur le fait que Nick Nurse sache organiser une défense. On l'a vu depuis des années à Toronto, même dans ses moins bonnes équipes. Par contre, l'attaque, comme je disais, qui dit provocation turnover dit beaucoup plus de transition. Il l'a fait pas par hasard, parce que ça peut être contre-intuitif quand tu penses à Joel Embiid de jouer pas mal de transition, et par contre ça l'est beaucoup moins pour Tyrese Maxey, et qui, je pense, a permis vraiment l'éclosion de Tyrese Maxey de faciliter le jeu de transition. Et puis pour Embiid, c'est pas une mauvaise chose non plus, puisque ça facilitait son jeu de passe. Alors du coup, peut-être que je me contredis, mais ce n'est pas que de la progression à la passe, c'est aussi la possibilité pour Embiid de prendre des passes qu'il est plus capable de faire, justement, avec des joueurs lancés qui l'apprécient beaucoup plus et qui sont un peu plus simples. L'équipe est encore aujourd'hui, malgré la très mauvaise passe, la meilleure équipe aux interceptions, ce qui montre justement l'effet sur la transition. Bien meilleur que toutes les saisons précédentes sur les rebonds offensifs, qui était quelque chose qui était totalement abandonné par Doc Rivers. Et là, je pense que Kelly Oubre, dont je parlais tout à l'heure, a fait beaucoup de bien, parce que c'est un joueur qui est très actif au rebond offensif. Bien meilleur au rebond défensif, même, avec Embiid qui est concentré depuis le début, lorsqu'il était là, bien sûr, depuis le début du match pour prendre ses rebonds def, et pas seulement dans le quatrième carton comme c'était le cas sous Doc Rivers. Donc, malgré un personnel limité, finalement, l'attaque a été très fonctionnelle. Quand je parle de personnel limité, je parle de créateurs de décalage. Il n'y avait pas tant que ça du côté de Philly, et pourtant l'attaque fonctionnait bien lorsque tout le monde était présent.
C'est vrai que c'était déjà un point de l'attaque, en tout cas du basket de transition de Nick Nurse, qu'on avait vu à Toronto. Toronto était historiquement une équipe qui provoquait beaucoup de pertes de balles. ou qui interceptait, qui se mettait en position de créer de l'attaque rapide pour parfois contrer le fait que bah, y avait un déficit sur la qualité demi-terrain de cette équipe lié au fait qu'il y avait trop d'ailiers. Petit paradoxe avec ce qu'il a actuellement du côté de Philly, mais je te rejoins parfaitement où Nick Nurse, sur un match-up de play-off, il a à la fois l'expérience, c'est un coach qui a gagné un titre, il a cette capacité de s'adapter, et je dirais plus loin, et ça illustre, c'est illustré par ce que tu viens de dire, il n'est pas dogmatique, Nick Nurse, qui peut être le cas de certains coachs, Dick Budenholzer, qui est un excellent coach, mais qu'il faut reconnaître, était un coach extrêmement dogmatique, même en play-off, et ça a mené à sa perte sur certaines campagnes de play-off, pas seulement, hein, mais cette capacité à parfois aller contre ses principes de jeu, c'est aussi quelque chose que Nick Nurse sait faire. Donc, c'est sûr que ça soit sur un play-in ou que ça soit sur une série de play-off, on ne sait pas encore, on va le déterminer un peu plus tard, sera un match-up extrêmement difficile, et je suis d'accord avec toi, il n'y a que Spoelstra que je placerai au-dessus dans la catégorie des coachs, et avec une marge avec le troisième, je pense. Carlisle, oui, il y a eu de la modification en cours d'année du côté d'Indiana. Moi, Mazzulla, j'attends toujours. Donc, je suis extrêmement positif là-dessus. Et c'est peut-être un motif d'espoir, je pense. Là, on est à cheval entre le motif d'espoir sur cette campagne de play-off et pour la suite aussi. C'est ça, Amine?
Exactement, je suis d'accord.
Eh bien, enchaînons avec ton joueur clé. Alors, quand on avait fait le pilote, c'était Jojo. On a changé, du coup. Bud Hield. T'es parti sur Bud Hield, c'est ça, Amine?
C'était Kelly Oubre sur le pilote, à la base. Et là, je suis parti sur Bud Hield. J'avais choisi Kelly Oubre. Mais comme on devait justement ne pas choisir de superstar, j'avais choisi ni Joel Embiid, ni Tyrese Maxey. Du coup, c'était un peu difficile de trouver un joueur vraiment clé dans la campagne qui ne soit pas de toute manière Joel Embiid finalement, et sa présence à 100% et sa présence sur tous les matchs. Mais j'ai choisi donc Bud Hield. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment vu l'intérêt du recrutement de Bud Hield à Philadelphie, sachant que c'est une Arlésienne de trade à Philly depuis des années. Tout le monde
devait voir Bud Hield à côté de Joel Embiid.
Alors, ça s'est enfin réalisé. Et Buddy Hield, on le connaît, hein, c'est un shooter élite. Je pense que personne n'ira dire le contraire. Et c'est un shooter élite, pas seulement sur du catch and shoot, c'est un excellent shooter en mouvement, très intéressant à mettre justement à côté de Joel Embiid. Mais c'est pas seulement un shooter élite. Par sa qualité de shooter élite, il apporte énormément de gravité et permet à son équipe d'attaquer mieux. J'ai envie de vous dire, suffit de demander à Tyrese Haliburton depuis que Buddy Hield est parti si c'est pas pratique d'avoir un Buddy Hield à côté de soi. Et certains diront qu'on fantasme justement ce rôle en le calquant sur ce qu'apportait par le passé à Philadelphie JJ Redick ou Seth Curry, voire même Tyrese Maxey, parce que justement c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt de Tyrese Maxey avec Joel Embiid, c'est que Tyrese Maxey est un shooter qui prend beaucoup de shoots en mouvement et du coup est intéressant pour Joel Embiid car le fait qu'il se déplace permet à Embiid de trouver des passes plus faciles. Et donc, bah oui, évidemment, Buddy Hield avec Joel Embiid, ça va fonctionner. Alors j'espère que ça sera pas que 3, 2, 1 match qui joueront ensemble, parce que Buddy est aussi en fin de contrat, parce que j'ai envie de voir cette association. Ça facilite vraiment les passes que recherche Embiid, et c'est à conjuguer aussi avec les progrès à la passe justement d'Embiid. Ça pourrait être létal, moi je pense, vraiment. Surtout si tu as justement Maxey et Buddy Hield qui sont dans cette position de shooter en mouvement, tu peux avoir un effet où tu peux choisir entre les deux qui crée encore plus de gravité. On connaît les défauts de Buddy Hield, notamment défensif. On sait très bien que c'est l'un de ses problèmes, même si il fait les efforts quand il doit les faire, on va dire. Il les fait du mieux qu'il peut. Mais c'est moins quand même un joueur unidimensionnel que par le passé. On a vu récemment qu'il était capable d'apporter un peu plus de création secondaire, de créer un peu sur pick and roll. Donc finalement, du côté de Philly, où on en manque vraiment, même si c'est pas parfait d'avoir ça de la part de Buddy Hield, c'est quand même pratique d'avoir un joueur qui est capable d'en faire un petit peu. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire sur Buddy Hield. Juste une dernière chose, je te pose une question. Combien de matchs de play-off a Buddy Hield? Ouais, voilà.
On connaît la stat. Il en a zéro. Il n'en a pas joué un seul et j'étais en train de me dire qu'il va peut-être pas en jouer un cette année.
C'est ça.
Zéro, il n'a pas un match de play-off et c'est vrai que... Ah, désolé, je t'ai coupé ton effet.
Non, mais c'est parfait.
Là, il a zéro match de playoff. Et c'est vrai que je me suis, au moment où tu l'as dit, je me suis dit, ça fait des années qu'on nous sort le Buddy Hield pour reprendre cette espèce de rôle de JJ Redick qu'il y avait eu dans, avec Butler, etc. Buddy Hield, qui est un joueur que je trouve que défensivement, il a souvent été critiqué alors que c'est l'écosystème parfois, ouais, où il était, qui était ultra, ultra problématique quand il était à Sacramento. Sacramento défendait globalement pas. Donc, voilà. Là, il a joué à Indiana qui défendait globalement pas non plus. Donc, surtout qu'il a été parfois positionné sur des rôles un peu plus difficiles défensivement, parce que c'est un joueur qui a parfois un peu sous-dimensionné pour son poste. Enfin, si tu le fais jouer dans des line-up un peu bizarres. Mais effectivement, moi, en cherchant les stats, j'ai vu qu'il y avait toujours l'efficacité, mais il y a aussi peut-être le volume, comme tu l'as un peu sous-entendu, et l'utilisation qui était un petit peu problématique. Et à voir. Clairement, c'est un joueur, selon les contrats, etc., qu'il faudrait, je pense, garder du côté de Philly, parce que peut-être plus qu'avec Embiid, comme tu l'as dit, c'est peut-être la relation avec Maxey, comme tu l'as dit, qui serait ultra intéressante. Peut-être dans un rôle plus de sixième homme de luxe, ou peut-être pas titulaire.
C'est ce que je pense en plus. Pas forcément titulaire. Je pense que ça doit être ton sixième homme, celui qui a le plus de minutes en sortie de banc. Mais que si tu as tous tes joueurs, tu as, j'ai parlé tout à l'heure de la meilleure line-up avec les cinq, et je pense que c'est celle-là qui doit jouer. Et tu vois, et faire sortir. Quand tu as un banc où tu peux faire sortir éventuellement Lowry, Hield, Covington, Paul Reed, moi, ça me paraît pas mal finalement. Mais il faut pouvoir sortir parce que il y a pas mal de joueurs qui sont absents pour l'instant.
Eh bien, terminons, Amine, alors que épisode après épisode, on est de plus en plus long. Là, c'est de ma faute. J'ai trop relancé. Plancher, plafond. Plancher.
On va faire court.
Ah. À quel point
on va faire court.
Vas-y, Amine.
Lors du pilote, pour encore en parler, j'avais fait play-in et finale de conférence vraiment dans les meilleures dispositions. Je vais pas aller aussi loin. Là, je suis très inquiet déjà du fait que on va probablement affronter Miami lors du play-in, même si c'est pas certain. Hein. On est encore, il reste encore des matchs, et peut-être que si Joel Embiid revient bien, ça permettra de gagner un peu de matchs. Mais le classement commence à ressembler à quelque chose qui pourrait être un peu plus figé, et donc il y a quand même pas mal de chances que ça s'arrête au play-in, mine de rien. Sachant que tu affronteras normalement ensuite le 9-10, et que si Joel Embiid est revenu à un bon niveau, je pense que normalement ça passe, que ce soit contre Chicago ou contre Atlanta, même avec un Embiid à 80%, parce que c'est un joueur beaucoup trop fort finalement, et qui permet à l'équipe d'être bien meilleure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin, sachant que dans ces cas-là, tu seras 7e ou 8e. J'ai bien peur que cette saison, avec un Embiid trop juste, que tu tombes contre Boston ou Milwaukee au premier tour, ce qui semble se dessiner, je pense que ça n'ira pas au-delà.
Que dire ? Je suis d'accord. Play-in ou premier tour expéditif, c'est le sort de beaucoup de ces équipes de play-in à l'Est, visiblement, peut-être avec l'exception Miami. Visiblement, surtout si tu prends Boston, qui Boston, je pense, préférait mille fois jouer Chicago, voire Atlanta, même si, je rappelle la take, elle était correcte, Atlanta est devenue la bête noire depuis que j'ai fait cette take de Boston. Mais à voir, parce que même s'il a 80%, je suis pas sûr que beaucoup de secteurs intérieurs, je suis pas sûr que Porzingis, il a envie de faire une série de 5 matchs avec Embiid ou de 4.
Non, c'est certain. Et je suis pas sûr que Mazzulla a envie de se frotter à Nick Nurse dès le premier tour aussi. Parce qu'on l'a vu en régulière, le moment où il a le plus utilisé la zone, c'était contre Boston, et c'était pas par hasard, hein, Nick Nurse.
Donc, ce serait un premier tour qui serait plutôt intéressant. On va faire trop loin.
Mais qui serait, je termine juste, que ce soit contre Boston ou contre Milwaukee, ce sera beaucoup de souffrance de se faire éliminer par l'une de ces deux équipes. Boston, on sait pourquoi, et Milwaukee, parce que Doc Rivers maintenant sur le banc.
C'est
ça ferait vraiment beaucoup de mal de se faire éliminer par l'une de ces deux équipes.
Quitte à choisir, tu préférais te faire éliminer par qui ? Boston ?
Franchement, Boston, ouais. Okay. Parce qu'au moins, on est au courant. C'est normal, cette saison, de se faire éliminer par Boston.
On va faire trop long, ça fait rien.
Ouais, je suis désolé.
Non. Dans un monde parfait, Amine, où Joel Embiid est là, où il est un peu sur la dynamique du début de saison, t'aurais donné quoi comme plafond à cette équipe ? On peut se poser
la
question.
Finale de conf. En fonction du seeding. C'est-à-dire que justement, c'est-à-dire dans un monde parfait où tu n'affrontes pas tout de suite Boston, tu n'affrontes pas tout de suite Milwaukee, tu n'es pas tout de suite dans le dur très rapidement. Disons que je n'aurais pas eu peur contre des très bonnes équipes comme Cleveland, comme New York, avec le roster au complet qui tourne bien. C'est en gros pour dire ça. Et du coup, dans un monde parfait où il y a peut-être aussi des blessures chez certaines équipes, des problèmes d'ajustement chez certaines équipes, ça pouvait aller jusqu'en finale de conf, oui, je pense.
Ok. Je pense que des 20, c'est la seule équipe où la question est... C'est légitime de se poser cette question parce que tu perds un joueur qui a une importance totale dans ton collectif. Ok, ok. Eh bien, merci beaucoup, Amine. C'était un point complet de chez complet sur Philly qu'on reverra du coup peut-être vers nos post-mortems avec un post-mortem qui s'annonce. Si on fait celui de Philly, vous annonce qu'au niveau des post-mortems, on ne sait pas encore comment les agencer. Je ne sais pas encore comment les agencer parce que, on va être honnête, on risque peut-être d'aborder les playoffs cramés. Donc, il faudra être dans la gestion, mais c'est une équipe où le destin à l'été sera fascinant parce que oui. Tu l'as dit, deux joueurs sous contrat, tu fais quoi pour entourer Embiid, même si Maxi sera là, enfin, c'est quasi une certitude. Enfin, il y a un effectif qui va être remodelé avec peut-être de l'espoir avec Nick Nurse, bien évidemment. Eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous invite à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur YouTube et sur Twitter. Le marathon continue. Nous, on va prendre pas une pause d'une semaine comme d'habitude, mais on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Salut!
Ciao!